Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ils sont plusieurs millions en France, plus de 7% de la population française à vivre en dessous du seuil de pauvreté, soit avec moins de 700 euros par mois pour une personne et moins de 1500 pour un couple avec enfant. Or, ces pauvres sont souvent réduits au silence, pas de place pour eux dans les médias, d'autres la plupart du temps parlent à leur place. Comment briser ce silence? Et si la solution venait entre autres du côté de l'Église? C'est en tout cas l'une des convictions de mon invité de ce matin. Voilà, cette émission Vivante Église ce matin, briser le silence des pauvres. Je reçois ce matin le père François Audinet, qui est prêtre du diocèse du Havre et théologien et qui fait un tour par chez nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous faites un tour par chez nous parce que ce soir, vous donnez une conférence à Castanet-Tolosan. Le titre de cette conférence débat, c'est « La richesse des très pauvres ». Conférence que vous animerez. Le rendez-vous est à 20h à la Maison de la Fraternité à Castanet-Tolosan. Je redonnerai toutes les informations au fur et à mesure de l'émission. C'est peut-être pas forcément votre spécialité, mais je voulais quand même qu'on essaie de faire une entrée un peu sociologique. Je me dis qu'à force de vous intéresser à ce sujet et de lire des choses, vous auriez un éclairage intéressant. Je citais ces chiffres sur la pauvreté en France. 14% donc de la population, alors c'est pas tout à fait celui que j'ai cité, mais 14% de la population française vit autour du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 60% du revenu médian en France. Le revenu médian en France, pour mémoire, c'est 1400 et quelques euros, si je ne me trompe pas. Non, 1700 euros, pardon, par mois, pour deux personnes, s'entend, pas pour une. Pour une personne. Et c'est 60% de ce chiffre. Et donc, 7% de la population française vit en dessous du seuil de pauvreté. Ça fait quand même quelques millions de personnes. Je dirais juste, avant de vous donner la parole, c'est promis, que notre région, j'ai vu ça en préparant cette émission, donc la région ex-Midi-Pyrénées, en fait, est la deuxième en France à connaître le plus fort taux de pauvreté. Ces chiffres, quand on travaille souvent sur ces sujets, on arrive toujours à rester un peu choqué et en colère, ou en fait on finit par s'y habituer?
On ne peut pas s'habituer parce que ces chiffres, ce sont des visages d'abord. Donc je ne connais pas par cœur ces chiffres, mais des personnes qui sont derrière ces chiffres, je les connais. Et puis il faut voir aussi que derrière la question des revenus, qui est importante, il y a des formes d'exclusion des personnes ou bien de stigmatisation de familles. Il y a aussi une forme de disqualification culturelle, de disqualification de la parole de ces personnes. Et tout ça, ce sont des réalités que les chiffres ne font pas percevoir, mais qui disent l'épaisseur d'une souffrance derrière la difficulté économique.
Alors, dans ces très pauvres, il y a aussi ce qu'on appelle le quart-monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le quart-monde? J'ai quand même posé plusieurs fois la question à cette antenne, parce que c'est une réalité grâce au service de la diaconie, entre autres du diocèse de Toulouse, auquel on essaye d'être attentif. Mais il est toujours bon pour nous, pour les auditeurs, d'essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des 7% que j'ai cités, il y a des gens qui sont non seulement très pauvres, mais qui sont carrément dans une misère noire. Je sais pas, est-ce qu'il y a encore un quart-monde en France?
Le quart-monde, c'est une expression qui est née du père Joseph Wrzesinski et de l'association ATD Quart-monde dans les années 50, 60, 70. C'est d'abord une manière de dire la dignité de ces personnes, puisque à l'époque, on parlait des pays développés, on parlait du tiers-monde, qui est une expression qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Et le père Wrzesinski et ceux qui l'entouraient ont voulu dire que tous ces gens qui étaient dans la misère, ils étaient un peuple. Ce n'était pas juste des personnes isolées, mais ils étaient un peuple. Que ce peuple, il avait un nom, une dignité, et ils l'ont nommé quart-monde, pour montrer qu'il comptait dans le monde dans lequel ils étaient. Aujourd'hui...
Qu'est-ce que ça recouvrait comme réalité à l'époque, peut-être ?
Comme réalité spécifique, c'était des personnes très pauvres, dans la misère, qui parfois n'avaient pas de logement, n'avaient parfois même aucun revenu, d'aucune sorte, et des personnes qui étaient dans les pays riches. Donc c'était différent de la pauvreté des pays de ce qu'on appelait le tiers-monde, où la pauvreté était certainement plus massive, mais c'était un type de pauvreté spécifique, voilà, des personnes nombreuses, mais dans des pays riches.
Voilà, et vous me disiez en préparant l'émission que pour vous, en fait, le quart-monde, comme le père Joseph Wrzesinski l'a connu après-guerre, en fait, n'existe plus en France.
Le quart-monde tel qu'il l'a connu, c'est une réalité qu'on ne rencontre plus beaucoup, parce qu'il n'y a pas, par exemple, les camps de réfugiés de Français que lui, il a connus. Mais aujourd'hui, la réalité du quart-monde, elle est plutôt transposée, soit pour des personnes étrangères, notamment quand elles sont en situation irrégulière, quand elles galèrent, on l'a bien vu autour de Calais ces dernières années, soit c'est une disqualification culturelle très forte qui demeure, mais ce ne sont pas forcément des gens qui sont à la rue, ce ne sont pas forcément des gens qui n'ont rien, mais ce sont des gens qui sont à côté de la société telle qu'elle avance dans son courant dominant.
Alors le quart-monde d'aujourd'hui, ce serait en fait les personnes sans domicile fixe, celles qu'on croise en fait dans nos grandes villes, parce qu'elles sont, elles sont d'une certaine manière hors système, pour des raisons probablement différentes peut-être, mais...
Oui, tout à fait, même si je pense que les personnes qui sont disqualifiées, qui font une expérience de l'exclusion, justement, elles vont au-delà des personnes qui sont sans domicile fixe. C'est ça que je voudrais dire. Ça va au-delà de la proportion de personnes qui n'ont pas de toit ou pas du tout de revenus. Et puis, il faut le dire aussi, à l'époque du père Wresinski, la question des étrangers ne se posait pas, et aujourd'hui, elle se pose de manière beaucoup plus criante.
Voilà, vous pensez aussi que, donc, si c'est plus le quart monde tel que le père Joseph Wresinski l'a connu, et au moment où il l'a nommé, qu'il y a quand même des gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Alors, cette expression d'avoir un pied dedans, un pied dehors, elle est du philosophe Guillaume Leblanc. Elle veut dire qu'on est toujours, d'une manière ou d'une autre, pris dans des relations. Mais qu'on peut être dans une situation où on se trouve très fragilisé et où ce que les autres vous renvoient, c'est que bah, quand même vous êtes là, vous avez une nationalité, vous avez tout ça, mais en même temps vous n'êtes pas dans le coup, vous n'êtes pas dans la société, vous n'êtes pas dans le jeu normal des relations, vous n'êtes pas dans la norme de ce qui fait une vie vivable dans nos sociétés. Et donc d'une certaine manière vous avez un pied dedans dans la vie sociale, mais vous avez un pied dehors. Et cet entre-deux, il est particulièrement douloureux.
Est-ce que vous avez des exemples? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour ces gens-là? C'est parce que... Donc, il y a des minima sociaux, c'est ça, mais il y a un sentiment de... Qu'est-ce que ça recouvre comme réalité, d'avoir ce sentiment de ne pas faire partie, en fait, de la société dans laquelle on vit?
Je pense à des personnes qui, par exemple, vivent dans une caravane, qui sont un pied dedans parce qu'elles peuvent percevoir les minima sociaux, parce qu'elles rencontrent des travailleurs sociaux, puis parce qu'elles ont quelques relations aussi d'amitié. Et en même temps, elles ont un pied dehors parce qu'elles n'ont pas un logement digne, parce que leurs enfants sont placés ailleurs, elles n'ont pas forcément de relations possibles avec ces enfants. Et du coup, tout leur dit que ce qui fait une vie digne, c'est pas pour elles.
Alors, le thème de l'émission, c'est briser le silence des pauvres. Et je le disais en introduction, souvent, ils n'ont pas la parole. Alors, je me suis dit, en même temps que je lisais mon introduction, que de fait, on allait nous dire, mais vous aussi, vous n'en invitez pas. On en invite à cette antenne, quand même, de temps à autre, en tout cas dans le cadre de Vivante Église, pour essayer de leur donner la parole. Mais c'est vrai qu'on a rarement, aux 20h, ou dans les grandes émissions de télé, et c'est peut-être une des gloires des radios comme les nôtres, d'essayer de donner la parole à ces personnes. Vous, en tout cas... qui travaillait, puisqu'un des sujets, votre sujet de mémoire, et si j'ai bien compris aujourd'hui de votre sujet de thèse, c'est comment les personnes très pauvres, en fait, écoutent la parole de Dieu. Comment ils l'écoutent, et puis évidemment, comment ça résonne dans leur cœur. Est-ce que ça vous frappe aussi, le fait que...
Ce qui me frappe,
ils font pas partie du spectre médiatique.
Ce qui me frappe, c'est que les personnes très pauvres, elles sont pas muettes du tout. Elles parlent. Mais il faut tendre l'oreille pour les écouter parce qu'elles parlent une langue que nous ne connaissons pas. Elles parlent avec des expériences qui sont derrière et que nous ne connaissons pas. C'est comme si elles nous racontaient la visite d'un pays que nous avons vu seulement de très loin. Et leurs mots, ils viennent de ce pays-là. Et leurs phrases, elles sont parfois coupées, hachées, comme les périodes de leur vie ou comme leurs expériences. Et... si nous voulons entendre leur manière de parler, il faut tendre l'oreille, il faut nous habituer, il faut entrer en conversation avec elles. Et c'est vrai que ça ne rentre pas dans les cadres d'un journal de 20 heures.
Mais ça vous frappe, je veux dire, vous qui avez l'habitude peut-être de les côtoyer plus que nous, ou qui travaillez dessus, ça vous arrive de regarder la télé ou de lire un journal en disant « mais c'est pas possible, donnez-leur la parole ou... »
Oui, ce qui me frappe beaucoup, c'est quand on parle des pauvres sans se demander ce qu'eux pensent. Ça, je trouve ça très frappant. Je crois que pour aucune autre catégorie de la population, on ne fait ça.
Alors, il faut dire un mot peut-être aussi de l'intuition du père Joseph Wresinski, c'est-à-dire que son combat, à lui, au début, c'était pas seulement de sortir les gens de la misère ou d'éradiquer la misère, mais c'était de faire en sorte que ce peuple puisse avoir une parole. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette première intuition?
Le père Wresinski et aussi tous ceux qui étaient autour de lui, ils ont fait une découverte, c'est que les personnes très pauvres, elles n'avaient pas d'abord besoin qu'on leur donne de la culture ou qu'on leur donne des choses, elles avaient besoin de pouvoir exprimer ce qu'elles étaient. elles avaient besoin qu'on les écoute. Elles n'étaient pas seulement des objets, c'est-à-dire des personnes à qui on devait donner ou destiner quelque chose, elles étaient des sujets qui avaient des choses à dire et des choses drôlement intéressantes sur l'humanité, sur la vie en société, etc. Et si on prend la peine de reconnaître quels sont ces sujets qui ont des choses à dire, alors tout change.
Peut-être, ma dernière question avant qu'on fasse une première pause, ça serait, au regard aussi de votre expérience, vous direz quelles conséquences sociétales ça a, en fait, pour une société, de ne pas écouter, en fait, cette frange de la population. Est-ce que ça fait qu'on marche la tête à l'envers? Je ne sais pas.
Alors, je dirais que ça a deux conséquences. La première, c'est que ça nous interroge sur ce qui nous conduit, sur ce qui nous fait avancer. Est-ce que c'est beau que notre société avance avec des déchets, pour reprendre le mot du pape François, qui est aussi un mot de Joseph Brzezinski? Est-ce que c'est bien qu'une société produise autant de déchets humains, d'une part, et puis d'autre part, ça veut dire qu'on va perpétuer pendant longtemps une situation où les personnes dans de telles vies sont nombreuses. Si on ne les écoute pas, il n'y a pas de porte de sortie ou de retour.
Voilà. Et on peut, à votre avis, briser ce silence des pauvres, ou est-ce que c'est juste...
Je pense qu'on peut les écouter. D'abord,
vous y croyez vraiment?
Associations. Ah oui, j'y crois vraiment, ouais. J'y crois vraiment. Le père Brzezinski disait qu'on ne peut pas être indifférent face à la misère. Soit on s'enfuit, soit on rencontre vraiment. Et je crois que quand on rencontre, quand on écoute des personnes marquées par la misère, bah déjà, nous-mêmes, nous changeons. C'est un fait majeur. C'est que les personnes très pauvres, elles nous changent quand on les rencontre. Alors oui, je crois qu'il y a une puissance de transformation qui est très grande dans la rencontre des plus pauvres.
Je rappelle le titre de votre conférence ce soir, La richesse des très pauvres, à 20h, à la Maison de la Fraternité à Castanet-Tolosan. On fait une première pause et on vous retrouve tout de suite après.
Présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Une émission Vivante Église ce matin sur ce thème « Briser le silence des pauvres » avec le père François Audinet, prêtre pour le diocèse du Havre et théologien et auteur d'un mémoire autour d'une question « Comment les personnes très pauvres écoutent la parole de Dieu ?» Avant qu'on rentre un peu plus dans le thème, votre mémoire qui aujourd'hui, si j'ai bien compris, est aussi votre thèse, je voulais qu'on revienne un petit peu sur cette intuition du père Joseph Wrzesinski. Donc le père Joseph Wrzesinski, il a découvert donc la grande misère en région parisienne, à Noisy-le-Grand, après-guerre.
Il l'a découvert dès son enfance.
Dès son enfance, en fait, oui. En effet, c'est vrai. En tout cas, quand il est entré dans ce camp à Noisy-le-Grand, c'était quoi? C'était en 1900...
C'était dans les années 50.
Dans les années 50. J'ai souvenir, en fait, de précédentes émissions qui disaient « Je suis entré dans la misère ».
Oui.
C'est ça. Hein.
Oui.
Et donc, il a eu cette intuition dès le début qu'il fallait travailler aussi à leur donner la parole. Est-ce que vous savez comment il a essayé de faire vivre cette intuition? C'est-à-dire qu'ils étaient attentifs à écouter ces personnes, mais après,
alors,
quelle était la suite?
Alors, ATD Quart-Monde s'est lancé dans un projet extraordinaire qui a été de conserver toutes les formes de parole et de culture des personnes du Quart-Monde qu'ils pouvaient trouver. Et donc, il y a eu des interviews... Il y a eu des choses élaborées ensemble, des dialogues, même il y a eu des universités populaires, etc. Et tout ça, des récits de vie nombreux aussi, tout ça a été conservé. Et il y a des groupes issus des groupes chrétiens, de l'Église, issus de la spiritualité du père Wrzesinski, qui ont gardé cette intuition. À Toulouse, il y en a deux, avec les Sœurs de la Bonne Nouvelle et puis avec la famille Bartimée, qui continuent, par exemple, à enregistrer des partages bibliques pour garder le témoignage de la culture et de la vie spirituelle des personnes très pauvres, pour qu'on puisse entendre leur voix.
Voilà, et donc il y en a d'autres comme le Sapel.
Il y en a d'autres comme le Sapel Lyon. Dans la région lyonnaise, comme la communauté de la Pierre d'Angle qui est présente dans pas mal d'endroits, la diaconie du Var aussi, puis de nombreux groupes en fait sur le territoire français.
Voilà, ce sont des choses qui rappelleront des souvenirs à certains ou à ceux qui ont entendu quelques émissions. Est-ce que vous pouvez nous redire un mot donc de la famille Bartimée? C'est pareil, on en a parlé, mais comment dire, j'allais dire éduquer, c'est rabâcher. En tout cas sur ce sujet, on sait que l'Église insiste. Vous, comment vous les avez connus et puis comment vous avez fait comment s'est mis en place votre travail?
La famille Bartimée, c'est un groupe de personnes très pauvres qui sont alliés à des compagnons, c'est-à-dire des personnes qui les côtoient et qui vivent des temps de vie spirituelle avec elles. Donc la famille Bartimée, c'est un espace de fraternité, un lieu où les personnes se rencontrent, et puis aussi un espace de prière dans lequel on médite la parole de Dieu, on partage autour de la parole de Dieu. Elle a été fondée en 2011 à Castanet-au-Lauzan par Nicole Vessière, qui avait déjà l'expérience de partage biblique avec les personnes très pauvres. Et puis, aujourd'hui, elle existe toujours. Les personnes de Bartimée se retrouvent au minimum une fois par mois, tout un dimanche, à la messe paroissiale d'abord, puisque c'est lié à la paroisse, et puis ensuite entre elles pour partager. Alors moi, quand j'ai commencé cette recherche, je connaissais plutôt la communauté de la Pierre d'Angle à Paris, et puis par réseau, puisqu'il existe le réseau Saint-Laurent, qui regroupe toutes ces réalités autour et avec les personnes les plus pauvres. Grâce au réseau Saint-Laurent, j'ai connu la famille Bartimée et puis ils ont accepté de me confier les enregistrements de leur partage biblique. Donc j'ai pu travailler sur ces enregistrements pour essayer de découvrir comment ils faisaient, qu'est-ce qui s'y passait et surtout qu'est-ce qu'on apprenait. Qu'est-ce que moi comme prêtre, qu'est-ce que nous les chrétiens, qu'est-ce que nous tous les gens qui aimons méditer la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on apprend des personnes les plus pauvres quand elles sont face à l'Évangile.
Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de faire ce mémoire, en fait? D'où ça vous est venu? Est-ce que c'est le fruit d'une expérience pastorale ou au contraire d'un manque? Vous avez dit...
C'est le fruit d'une expérience. J'ai eu la chance, quand je me préparais à être prêtre, d'être envoyé à Madagascar, où j'ai côtoyé des personnes pauvres, nombreuses. Et puis, ma première mission, qui est toujours ma mission, d'ailleurs, comme diacre, puis comme prêtre, ça a été dans une paroisse des quartiers nord du Havre, où j'ai rencontré des personnes très pauvres, notamment par le biais du catéchuménat. Et je me suis retrouvé à lire l'Évangile avec elles. Je me suis rendu compte que l'Évangile résonnait dans leur vie. Je pense à Loïc, qui a traversé tellement d'épreuves et qui disait peu de mots, mais à chaque fois des phrases d'une extraordinaire sagesse, qui trouvait en Jésus quelqu'un qui éclairait les épreuves, les ténèbres par lesquelles il est passé. Je pense à Maryse, qui a vécu des choses tellement difficiles avec son mari et qui, dans l'Évangile, a fait la rencontre de Jésus qui accueille. Voilà, ce sont ces rencontres et puis d'autres qui m'ont conduit à vouloir travailler. J'ai eu aussi la chance de découvrir qu'on pouvait faire de la théologie à partir de la parole des personnes très pauvres. On en fait avec saint Thomas d'Aquin, on en fait avec saint Bonaventure, plein de grands théologiens, mais on peut aussi en faire à partir de la parole des personnes très pauvres.
Alors, parmi vos, comment dire, vos conclusions de votre mémoire, il y en a une première, c'est que ça, dans votre mémoire, c'est le résumé que vous m'avez fait suivre, ça s'appelle « Dieu pris au mot ». C'est-à-dire que, pour faire écho à ce que vous venez de partager, que ces personnes, en fait, selon vous, ont une compréhension en fait, beaucoup plus immédiate. Elles rentreraient plus facilement dans l'Évangile. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ?
Alors, tous ceux qui ont fait l'expérience de partager l'Évangile avec les personnes très pauvres ont pu remarquer que soit tout de suite elles disent « je comprends rien », soit au contraire elles sont très familières de l'Évangile. Et souvent, on fait l'expérience qu'elles sont de plein pied avec l'Évangile, alors que d'autres personnes qui ont fait des études, etc., vont avoir plein de questions d'ordre intellectuel, parfois plein d'objections lorsqu'elles lisent l'Évangile. Les personnes très pauvres, elles, quand elles lisent l'Évangile, elles prennent Dieu au mot. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Elles le prennent au mot. Ça veut dire qu'elles lisent l'Évangile comme une promesse et elles se disent « alors si c'est vrai, ça doit se réaliser dans ma vie ». Et elles regardent dans leur vie si c'est le cas. Ça veut dire qu'elles ont une confiance énorme dans la puissance de la parole de Dieu, dans ce que la parole de Dieu révèle de nos existences, dans la lumière que la parole de Dieu met sur nos existences, mais aussi dans le fait que cette parole, ce n'est pas une parole en l'air.
Mais avant de parler de cette dimension de promesse... Le fait qu'en fait qu'elles comprennent, comment vous pourriez nous éclairer un petit peu plus là-dessus ? C'est-à-dire, est-ce que dans le fond, pour bien comprendre l'Évangile, il faut être pauvre ? C'est même les scènes de l'Évangile, les récits, les situations, pour ne pas être extérieur quelque part.
Alors, je dirais très sincèrement que pour bien comprendre l'Évangile, il faut soit être pauvre, soit ami avec des pauvres. Ça, je le crois vraiment. On ne peut pas comprendre l'Évangile sans les pauvres, tout simplement parce qu'ils sont à chaque page de l'Évangile, d'abord. Et puis parce qu'ils lisent l'Évangile comme quelque chose qui est une question de vie ou de mort. Pas comme simplement une parole qui nous apprend des choses sur Jésus ou sur l'histoire du christianisme ou sur le Saint-Esprit ou sur Dieu, mais comme une question de vie ou de mort qui touche à notre existence même, au sens même de notre vie. Et ça, dans chaque page de l'Évangile, les personnes très pauvres, elles le cherchent directement.
Ça veut dire quoi, une question de vie ou de mort ? Vous pourriez prendre des exemples qui vous reviendraient en tête ?
Une question de vie ou de mort, ça veut dire, par exemple, quand on lit la guérison de Bartimée par Jésus. Jésus sort de Jéricho selon l'évangile de Saint-Marc, et puis l'aveugle Bartimée est sur le chemin, il crie et la foule ne veut pas de lui. Eh bien, la plupart du temps, nous lisons cet évangile en disant « Jésus fait une guérison ». Voilà, Bartimée, pourquoi est-ce qu'il crie ? C'est parce qu'il veut être guéri. Et puis, dans la famille Bartimée, il y a Jackie, qui lui aussi médite cet évangile, et qui dit que ce que Bartimée veut, c'est pas la guérison. Ce que Bartimée veut, c'est pouvoir enfin suivre Jésus. Que le problème de Bartimée, c'est d'être aveugle, non pas parce que c'est un problème de santé, mais parce que ça l'empêche de faire comme les autres et de suivre Jésus. Et qu'à cause de ça, il est sur le bord de la route. Et donc, dans le cri de Bartimée, il perçoit le scandale que Bartimée puisse pas être avec Jésus, et la délivrance qui arrive enfin quand Bartimée est avec Jésus.
L'autre chose, c'est que vous dites en fait que vous avez une phrase comme ça, « Jamais un partage biblique ne s'achève sans que le regard le plus attaché à la bonté... » Pardon, « Jamais un partage biblique ne s'achève sans que le regard le plus attaché à la bonté de Jésus ait été mis en avant. » qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est-à-dire qu'en fait, si...
On pourrait dire qu'il y a deux visages de Jésus auxquels les personnes très pauvres sont les plus sensibles. C'est Jésus crucifié, parce qu'ils peuvent dire... Il a souffert comme nous. Il est l'un des nôtres. Il est l'un des nôtres. Et ça, c'est évidemment très important. On a tellement tendance à oublier que Jésus a été un homme supplicié, vraiment. Et puis le deuxième visage, c'est Jésus bon pasteur. Jésus qui accueille de manière inconditionnelle. Jésus qui ne juge pas. Et ça, c'est tellement frappant que quelqu'un comme Martine, dans les partages de Bartimée, elle dit « on ne peut pas être Jésus ». Non pas pour dire qu'on est loin de Jésus, mais justement pour dire que son accueil est tellement exceptionnel que ça installe une relation avec lui qui est unique. Et nous, on ne peut pas être Jésus, mais par contre, on peut bénéficier de cet accueil de Jésus. Le fait que Jésus ne juge pas, pour les personnes très pauvres qui sont tellement souvent jugées, évaluées, quantifiées, eh bien ça, c'est un signe extraordinaire de Dieu.
Autre chose, vous en avez parlé un petit peu, c'est que vous dites que pour eux, la parole résonne comme une promesse. Et au regard de ce que vous venez de dire, c'est une promesse en fait qui implique soit la vie, soit la mort. C'est pareil, aidez-nous à rentrer là-dedans peut-être et à découvrir aussi nous autrement l'Évangile.
Oui, Dire que l'évangile est une promesse, ça veut dire qu'il va se réaliser dans notre vie de maintenant. Ça veut dire que quand les personnes très pauvres lisent l'évangile, elles se posent la question de « mais est-ce que Dieu est vrai dans ce qu'il dit ?» ou pas. Puisque justement, dans leur vie, elles font l'expérience que bien des choses démentent les promesses de l'évangile. Bien des choses ne collent pas avec ce qui est écrit dans l'évangile. Et alors, elles font un discernement qui est de regarder dans leur vie comment l'évangile s'incarne. Et elles découvrent quelque chose qui est très lié au mystère de Pâques. Ça veut dire, soit finalement elles crient comme Jésus, « Pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi cette promesse, elle ne se réalise pas ?» Et on rencontre des personnes très pauvres qui y croient à cette promesse, qui croient à ce que Jésus vit dans l'évangile, c'est vrai, on le sent dans l'évangile, mais pourquoi est-ce qu'il m'abandonne au point que ça ne se réalise pas ? Et parfois, pendant des années, elles portent ce cri-là. Et on découvre aussi d'autres personnes qui font l'expérience de la résurrection, pour qui le fait que la promesse s'accomplisse, c'est très sensible. Je pense à Xavier, par exemple, pour qui la rencontre avec la famille Bartimée, ça a été une expérience de résurrection. Le fait de se retrouver dans une communauté d'église qui l'accueillait, qui lui permettait de vivre enfin, ouvertement, son chemin avec Jésus, ça a été une résurrection vraiment, une question de vie.
Vous voulez dire que ça a eu des suites aussi dans sa vie?
Ça a eu des suites dans sa vie. J'ai eu la chance de le rencontrer et aujourd'hui, toujours, il est au cœur de sa communauté chrétienne. Oui, il y a eu vraiment une retrouvaille avec l'Église, une retrouvaille aussi, des retrouvailles avec l'Évangile qui ont profondément marqué sa vie.
Alors peut-être, vous, du coup, comment ont raisonné, comment a raisonné cette promesse qu'est la parole de Dieu pour eux. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a moins de problèmes, ce que Dieu promet dans son évangile, si ça n'arrive pas, c'est moins grave. Est-ce que ça vous a interrogé justement sur le manque de réponse de Dieu ou comment vous avez...
Je dirais que pour moi, il y a deux choses. D'abord, les personnes très pauvres, elles m'ont appris que vraiment Dieu nous remet debout. Et que parfois, il est là même dans des nuits très prolongées et très difficiles. C'est elles qui m'ont fait découvrir qu'il était là dans ces moments. Et des nuits comme celle-ci, nous en faisons parfois l'expérience dans notre foi. Elles sont différentes de la manière dont les vivent les personnes très pauvres, mais nous en faisons l'expérience. Et là, je crois que, en fait, elles nous apprennent quelque chose de comment nous traversons les épreuves avec Dieu et comment Dieu, lui, il traverse nos épreuves, comment Dieu se trouve au cœur de nos épreuves.
Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis ?
Je pourrais prendre l'exemple de Claudine, qui, à un moment, dit vraiment qu'elle a de grandes épreuves, à tel point même qu'elle ne peut pas les partager avec les autres. C'est trop lourd. Mais à un moment, elle dit aussi, « Je sais que Dieu, lui, il sait. » J'ai confiance que Dieu, il sait ce que je vis. Je sais qu'il sait. Elle dit vraiment ça. Et Claudine, elle fait comme ça l'expérience que Dieu l'accompagne. Le savoir de Dieu, le fait que Dieu sache que je traverse une épreuve, c'est quelque chose qui n'est pas du tout sensible, quelque chose dont je n'ai pas de preuve. Mais Claudine, à la lumière de l'Évangile, elle discerne ça. Eh bien, moi, elle m'apprend encore, que dans la ténèbre, le Seigneur me regarde avec bonté et me tient dans sa main droite, comme dit la Bible. Eh bien ça, s'il n'y avait pas Claudine qui me l'avait appris parce qu'elle le vit dans sa chair, mais je ne sais pas si je le croirais comme ça.
Le fait qu'elle le croit est objet de consolation pour elle ?
Le fait qu'elle le croit, c'est ce qui la soutient, oui, elle le dit. Le fait que Dieu sache ce qu'elle vit, eh bien c'est ce qui lui donne la force pour des années et des années d'épreuves.
En préparant l'émission, je suis tombé sur une vidéo d'un membre d'un des groupes que vous avez cité, une jeune femme, donc le Sapel, qui, pour faire écho à ce que vous venez de dire, dit qu'il y a une familiarité entre le silence de Dieu et le silence des pauvres. Alors, au risque que vous demandez de vous répéter, qu'est-ce que vous diriez à des gens qui cherchent Dieu et qui ont l'impression de faire l'expérience de son silence, en fait ?
La Bible nous dit que parfois Dieu est silencieux, et les personnes très pauvres elles-mêmes, elles nous le disent justement quand elles crient en disant « mais pourquoi la promesse, elle ne se réalise pas ?» Et donc, l'expérience du silence de Dieu, elle fait toujours partie de notre recherche de Dieu, et du lien que le Seigneur entretient avec nous. Mais les personnes très pauvres, elles nous apprennent d'abord qu'on a le droit de crier, on a le droit de s'indigner en disant « Mais où est-ce que tu es passé, Seigneur ?» Ça, c'est des mots de la Bible. Hein. Mais elles nous apprennent aussi que, comme Jésus sur la croix, qui souffre, mais qui quand même voit que tout est accompli, que Dieu est en train d'accomplir sa promesse au cœur de sa souffrance à lui, Jésus, eh bien, elles nous apprennent que Dieu passe à travers ça et qu'il peut nous le faire traverser.
Vous dites pour finir, en tout cas dans le document que vous m'avez communiqué, que les pauvres en fait ont une grande autorité quand ils lisent et quand ils commencent la parole de Dieu. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot là-dessus, peut-être pour nous inspirer dans nos églises ?
Dans l'église, l'autorité, l'exercice de l'autorité, il est lié au fait qu'on reconnaît la présence de Dieu, qu'on reconnaît les appels de Dieu et qu'on s'en fait le relais. Eh bien, les personnes très pauvres, quand elles lisent l'Évangile et quand elles discernent dans leur vie l'absence de la promesse ou sa présence étonnante même, eh bien, elles nous révèlent où Dieu se tient aujourd'hui. Et elles ont donc une autorité. Elles appellent à ce qu'on les écoute pour cela, parce que nous ne pouvons pas savoir comment Dieu est présent aujourd'hui, ce vendredi, en France, en 2017, si elles ne nous le disent pas. On va rater une part de la présence de Dieu si on ne les écoute pas. Alors oui, elles ont une grande autorité.
Est-ce à dire que pour préparer vos homélies le dimanche, vous en consultez, vous consultez ces personnes, vous leur demandez ce qu'elles pensent du passage d'évangile ou vous les invitez à l'ambon quand vous prêchez ?
Je me souviens souvent de ce que nous avons partagé. Je me souviens.
Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin, briser le silence des pauvres, avec, je vous rappelle, le père François Audinet, prêtre pour le diocèse du Havre, théologien, et qui donc donne une conférence ce soir à Castanet-Tolosan, à la Maison de la Fraternité à 20h, sur le thème « La richesse des très pauvres ». Voilà, conférence qu'il donne à partir de son expérience quant au partage, comment dire, la compréhension que les personnes très pauvres ont de l'Évangile. Alors, dans cette dernière partie, je m'étais noté la voix prophétique des pauvres. Et puis, j'aimerais que ça ne soit pas que des mots. Est-ce que vous pourriez nous dire, à votre avis, ce que vous intuitionnez ou ce que vous avez vu, qu'est-ce que ça peut changer, en fait, dans l'Église, si tout d'un coup, on se mettait à écouter les plus pauvres?
Bah, nous serions nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, l'Église, nous sommes nous-mêmes. Quand nous découvrons comment Dieu passe par notre monde. Et nous sommes nous-mêmes quand nous reconnaissons ce que Dieu fait pour nous et pour tout et pour le monde entier. Et ça, les plus pauvres nous l'apprennent. Et si nous nous retrouvons autour d'eux, eh bien nous sortons de bien des querelles, de bien des limites, de bien des demi-mesures, et nous découvrons jusqu'à quelle profondeur, de manière radicale, l'Évangile vient nous chercher. Comme Jésus allait chercher ses disciples, comme Jésus allait rencontrer les personnes malades, comme Jésus allait vers les possédés, vers les prostituées, un par un, eh bien, si nous vivons ça, nous sommes nous-mêmes.
D'accord, mais juste, je reviens sur ce que vous avez dit à l'intérieur de cette réponse. Vous dites qu'en fait, pour les plus pauvres, Dieu agit. C'est leur expérience.
C'est eux qui me l'ont appris, et c'est justement une des choses qu'on découvre dans l'Évangile. Eh bien, quand ils lisent l'Évangile, ou qui racontent l'action de Dieu par Jésus... Justement, ils disent, soit je ne comprends pas que Dieu m'abandonne et que je n'en bénéficie pas, ou bien au contraire, ils reconnaissent la présence de Dieu là où d'autres ne la verraient pas. Ils reconnaissent l'action de Dieu là où d'autres auraient pensé que non, Dieu était absent.
Donc le premier mode d'action de Dieu, d'une certaine manière, c'est pas forcément de sortir les gens de la misère, c'est ça ?
Eh bien, c'est eux qui nous disent que parfois c'est au cœur de l'épreuve la plus dure qu'ils ont rencontré Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est bien qu'il y ait de la misère, pas du tout, je suis convaincu du contraire, mais qu'il n'y a rien qui est trop loin pour la parole de Dieu. Il n'y a aucune situation humaine qui est trop loin pour que Dieu vienne. Ça, c'est les plus pauvres qui nous l'apprennent.
Est-ce que vous avez un exemple qui vous revient en tête ?
Pour moi, l'exemple de Claudine que j'ai donné tout à l'heure, il est très parlant, parce qu'elle raconte des épreuves qui durent pendant des années, et quand elle parle, elle dit « il n'y a pas d'amélioration possible ». Elle dit « mes épreuves, elles vont encore durer pendant des années ». Et pourtant, Dieu est là. Je pense aussi à Maryse, que j'ai citée tout à l'heure. Quand elle souffrait des violences terribles, elle allait dormir dans l'église. Et elle dit que Dieu était là, pour l'accueillir. Et elle a traversé des années de violence avec Dieu.
Est-ce que, alors vous me direz, c'est un peu difficile comme question, hein, mais je vous la pose quand même. Parfois, vous avez l'impression que l'église, justement, marche un peu la tête à l'envers aujourd'hui, parce qu'elle ne ferait pas assez place à... aux plus pauvres.
Je pense que c'est une question pour chaque chrétien. Est-ce que toi, tu es un ami des plus pauvres ? Est-ce que tu les connais personnellement ? Et est-ce que tu te laisses toucher par Dieu à travers eux ? Parce que Jésus est passé par eux. Et si Jésus est passé par eux il y a 2000 ans, Jésus passe encore par eux aujourd'hui. Et l'Esprit Saint nous parle encore à travers eux. Alors, est-ce que toi, tu es ami avec eux ? Je pense que beaucoup de chrétiens pourraient dire qu'ils sont généreux envers les plus pauvres, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'ils vivent l'amitié ? Peut-être pas. Ce qui est frappant, c'est que dans l'Évangile, les disciples de Jésus, ils n'ont pas toujours envie de vivre cette amitié. La guérison de Bartimée dont je parlais tout à l'heure, elle commence par une foule qui ne veut pas de Bartimée, qui n'a pas du tout envie qu'il dérange Jésus. Cette foule, elle a envie de rester tranquille avec Jésus, en fait.
C'est-à-dire les disciples aussi lui disent...
Tous les disciples de Jésus, tout à fait. On ne voit aucune exception. Ils sont tous là avec Jésus, ils marchent à sa suite, ce qui n'est pas rien. Ils ont lâché un peu tout pour le suivre de village en village, et ils le font, et c'est très beau, mais ils n'ont pas envie que ce pauvre vienne les déranger. Et puis c'est Jésus qui s'arrête, et Jésus, il a envie de passer par Bartimée. En somme, il y a deux guérisons. Il y a la guérison de Bartimée, qui fait qu'enfin il n'est plus exclu et il peut suivre Jésus, ce qu'il attendait. Mais il y a aussi la guérison de cette foule qui reçoit la grâce de voir Bartimée alors qu'elle ne le voyait pas, d'écouter sa parole alors qu'elle ne l'écoutait pas, et puis de maintenant le compter en son sein pour suivre Jésus.
Est-ce que vous avez, comment dire, vous avez toujours dans votre vie essayé d'être en amitié avec les plus pauvres, ou est-ce que c'est à la faveur de ce travail ? Comment peut-être vous pourriez, au regard de votre propre expérience, nous donner des pistes pour essayer d'entrer dans cette amitié avec les plus pauvres ?
Je dirais qu'il y a eu deux choses dans ma vie. La première, c'est que quand j'ai vraiment découvert le Christ, quand j'avais 15-16 ans, ma foi a toujours été associée à la joie profonde de connaître Jésus, d'être aimé par lui et de pouvoir l'aimer et de pouvoir engager ma vie avec lui. Et rencontrer des personnes dans des épreuves terribles ou dans des grandes souffrances me faisait me dire, mais est-ce que la joie, elle est vraie aussi pour elles? Et je sentais bien que ce n'était pas à moi de répondre. C'était à elle de me dire si la joie, elle était aussi pour elle. Et ce que j'entends, c'est que oui, même si ça ne diminue pas les épreuves, même si c'est très lourd, eh bien oui, la joie de Dieu, elle est pour tous, et certainement même en premier pour ceux qui sont les plus éprouvés.
Et puis, il y a d'accord, mais là, juste vous faites une réponse générale à la question que vous posiez quand vous étiez jeune.
Oui.
Mais comment vous, ma question, c'était aussi comment vous êtes devenu ami avec ces
alors justement,
personnes.
C'est la deuxième chose. C'est que quand j'ai été envoyé en paroisse dans les quartiers nord du Havre, j'ai rencontré des personnes, j'en nommais quelques-unes tout à l'heure, je pourrais en dire d'autres, et je me suis rendu compte que ces personnes, elles avaient leur manière de vivre la foi, qui n'était peut-être pas la mienne, mais que si je me mettais à leur écoute et si j'apprenais d'elles, moi, tout jeune prêtre, ça ne fait que 3 ans que je suis prêtre, hein, eh bien, j'apprenais à connaître plus Jésus et à être plus familier de lui. Alors c'est dans ces contacts-là, c'est-à-dire c'est pas par un groupe institué d'abord, c'est par la paroisse dans laquelle j'étais, c'est par des demandes de catéchuménat, c'est par des accompagnements de funérailles. Je pense à la famille de Kevin qui était mort à 18 ans, qui traversait tant d'épreuves. Eh bien, en les accompagnant, j'ai découvert que Dieu pouvait passer par eux aussi et les toucher aussi, alors que ça semblait un gouffre terrible, l'épreuve dans laquelle ils étaient. Eh bien, comme ça, à travers des rencontres toutes simples et nombreuses dans cette paroisse, j'ai découvert que la foi des personnes très pauvres était une richesse pour l'Église. En tout cas, elle était une richesse pour moi. Elle est une richesse pour moi.
Donc, vous nous dites en tout cas que, fort de votre expérience et de votre autorité, d'une certaine manière, puisque, bon, même si vous êtes jeune prêtre, qu'en fait, on ne peut pas vraiment rentrer dans l'Évangile si à un moment on ne devient pas ami avec les plus pauvres.
En tout cas, Jésus n'a pas vécu sa vie sans être ami avec les plus pauvres. Et je crois que les plus pauvres, ils nous posent la question de « est-ce que c'est vrai que Dieu est là ?» Souvent, on évite de se la poser cette question, parce que elle nous fait peur et elle fait peur à notre foi, mais en fait, est-ce que c'est vrai que Dieu aime ce monde? Est-ce que c'est vrai que Dieu nous sauve? Mais si c'est vrai, ça doit forcément se montrer d'une manière ou d'une autre dans ce monde, si c'est vrai que Dieu aime ce monde. Alors demandons-le à ceux dont la vie est la plus éprouvée, parfois même broyée, demandons-leur.
Alors il y a un mouvement dans l'Église qui s'initie de plus en plus importante, qui fait suite à Diaconia, donc ce grand... ce grand projet pour l'Église de France qui a eu lieu en 2013, qui visait à faire écho à des propos du pape Benoît XVI, invitant à ce que l'Église retrouve sa triple tâche d'annonce de la parole de Dieu, de célébration des sacrements et de service de la charité. Donc il y a eu des travaux des évêques de France sur les nouvelles pauvretés, et puis derrière, donc, cette année qui a été lancée, afin que des frères et sœurs que le service des frères redevienne l'affaire de tous les baptisés, non plus seulement des organismes spécialisés. Le service des frères est un lieu source pour la foi de chaque baptisé. Quelques mots sur Diaconia, sur le site de la conférence des évêques de France. Vous saluez ce mouvement, j'imagine, et qu'est-ce que vous en voyez peut-être comme écho qui vont dans votre diocèse, dans votre paroisse ou au sein de l'Église de France?
Alors je reprendrai bien une expression d'Étienne Grieux, qui est un théologien qui a beaucoup participé à l'élaboration de Diaconia, qui était en 2013. Il dit que ce qui s'est passé à Diaconia, c'est que justement, toute l'Église de France s'est mise à l'écoute des plus pauvres. On ne s'est pas juste demandé qu'est-ce qu'on allait faire pour eux, ce qui est une question peut-être louable, mais qui est seconde. On s'est d'abord demandé qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Il y a eu un groupe, Place et Parole des Pauvres, qui a préparé Diaconia pendant des mois et qui a permis de faire entendre la parole des plus pauvres. Là, il s'est passé quelque chose de très important. Aujourd'hui, ça continue à travers la multiplication de ces groupes. Je pourrais le dire à travers la Pierre d'Angle, ce groupe qui est un peu comme la famille Bartimée auquel je participe à Paris. Et ce groupe de la Pierre d'Angle a été marqué et renouvelé par Diaconia. Ils ont aussi senti combien les évêques, parce que les évêques de France étaient très nombreux à Diaconia, combien les évêques leur faisaient confiance et combien les évêques comptaient sur eux pour poursuivre leur mission. Et puis, il y a tout un tas de choses qui se développent. Par exemple, à la Toussaint, à Lourdes, il y aura une université de la solidarité et de la diaconie qui va rassembler tous les services de diaconie et puis toutes les communautés autour des personnes les plus pauvres pendant plusieurs jours pour échanger les savoirs, pour échanger les pratiques et aussi tout simplement pour célébrer Jésus qui est présent dans nos vies à tous.
Alors il y en a, c'est le pape qu'on appelle aussi le Saint-Père, hein, qui a l'impression qu'il œuvre à ce renouvellement cette fois à l'échelle de l'Église universelle. J'ai souvenir de cette phrase que je cite de temps à autre, les communistes ont volé aux chrétiens le drapeau de la pauvreté. Est-ce que vous avez l'impression que ce pape justement il aide à, comme François d'Assise en fait, hein, à remettre l'Église à l'endroit en partant de tout en bas et en voyant peut-être que Dieu se manifeste là où on imagine qu'il ne se manifeste pas. Est-ce que c'est votre sentiment et est-ce que vous pourriez...
Ce qui est sûr, c'est que le pape François est un ami des pauvres, ce qui n'est pas un jugement sur ses prédécesseurs du tout, mais lui l'est, c'est une évidence, on le voit. Et ce qu'il dit, non seulement parle aux pauvres, mais vient de son amitié avec les pauvres, en bonne partie. Il utilise souvent l'image de la pyramide inversée, en disant « si l'Église est une pyramide, alors elle est inversée, le pape est tout en bas, et puis ceux qui sont en haut, c'est le peuple de Dieu, et notamment les pauvres parmi eux. » Donc finalement, on a l'impression que pour le pape François, la qualité essentielle du pasteur, c'est de savoir discerner, de savoir sentir ce qui se passe dans le peuple, et notamment dans le peuple des pauvres, ce que Dieu fait dans ce peuple pour pouvoir y correspondre. Alors c'est sûr que pour tous ceux qui rencontrent les plus pauvres, et de toute évidence aussi, pour les plus pauvres eux-mêmes, son message et sa figure, ses gestes sont inspirants.
Qu'est-ce qu'ils disent justement les plus pauvres que vous croisez dans votre paroisse? Ils se disent c'est notre pape ou pas ou...
En tout cas, ils ont l'impression que le pape François les comprend, alors qu'ils ne l'ont jamais rencontré, eux. Les amis de la famille Bartimée, ils l'ont rencontré, mais dans ma paroisse, je ne connais personne qui ait rencontré le pape François, et pourtant ils disent qu'il les comprend.
Est-ce qu'il y a un événement depuis le début de son pontificat où vous vous êtes dit, tiens, c'est le pape des pauvres, justement, qui vous reviendra en tête?
Je dirais la tendresse avec laquelle il prend les enfants dans ses bras. C'est très étonnant parce que là, ce sont des petits et pas des pauvres. C'est l'image qui me vient pour vous répondre. C'est la tendresse d'un père et ce sont aussi les gestes de quelqu'un qui sait le prix d'une vie humaine. Qu'elle soit riche ou pauvre, quelle qu'elle soit. Et ça, je trouve que c'est un témoignage merveilleux.
Voilà, et ben merci beaucoup, Père François Audinet, d'être passé par les studios de Radio Présence. Je rappelle votre conférence ce soir à 20h à la Maison de la Fraternité à Castanet-Tolosan. La richesse des très pauvres. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi. Thank you.